Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition en vous rappelant, vous apprenant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent un peu partout maintenant sur tous les écrans. Hélas, tant mieux, je ne sais pas. Je vous rappellerai aussi, ça je ne le fais pas à chaque fois, que notre générique est bien évidemment une musique de film, en l'espèce celle d'une petite merveille signée de Blake Edwards en 1962. En français, ça s'appelait Diamant sur canapé. Personne n'a jamais compris pourquoi. Alors, en anglais, ça s'appelait Breakfast at Tiffany's. Audrey Byrne et George Peppard en étaient les principaux acteurs. Et Henry Mancini, le regretté, était à la baguette de ce Moon River bien connu. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons nous intéresser à un réalisateur australien, ce qui n'est pas si courant, né à Sydney, en Australie, bien sûr, le 21 août 1944, le dénommé Peter Weir, ou Weir, je ne sais pas trop, en tout cas W-E-I-R, et vous ferez avec, comme vous le souhaitez, qui après un bref passage à l'université de Sydney, commence à exercer différents petits métiers pour le cinéma, pour la télévision. Il écrit quelques courts-métrages et en 1974, donc à l'âge de 30 ans, eh bien, il réalise son premier long-métrage au titre ô combien prometteur, Les voitures qui ont mangé Paris. Mais Paris, c'est une petite ville australienne et non pas la ville que vous connaissez. Un mélange entre un film d'horreur, un film de thriller et un film fantastique qui rencontre son petit succès. Mais par contre, c'est un méga succès qui l'attend avec son second film tourné en 1975 et intitulé Picnic à Hanging Rock, l'histoire tout à fait mystérieuse de la disparition d'un groupe de jeunes filles, quelque part donc à Hanging Rock, alors que vous l'aviez deviné, elles étaient en pique-nique, histoire plus ou moins vraie, plus ou moins arrangée, qui n'a jamais été vraiment élucidée. En tout cas, le film est un très très gros succès, notamment en Australie, où il bat tous les records de recettes, permettant donc à Peter Weir d'enchaîner sur d'autres films dont j'aurais bien aimé vous proposer la musique, mais hélas, il se trouve que malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé d'extraits musicaux des quatre premiers films de Peter Weir, sur lesquels donc je ne vais pas insister, juste pour vous dire qu'après Picnic à Hanging Rock, il y a eu La Dernière Vague, un film dans lequel on retrouvait Richard Chamberlain, le fameux Richard Chamberlain des Oiseaux se cache pour mourir, et puis, alors là, c'était vraiment la rencontre au sommet, David Gulpilil, qui est certainement l'acteur aborigène le plus connu. Un film vaguement fantastique qui n'était peut-être pas le meilleur opus de Peter Weir, mais en tout cas qui était son dernier film véritablement australien, puisque le Gallipoli qui suivra en 1981 mettait en vedette Mel Gibson, lui aussi, sauf erreur de ma part, australien d'origine, dans l'un des rôles principaux pour une évocation assez sanglante d'une bataille de la Première Guerre mondiale mettant aux prises les Australiens avec, si je me souviens bien, les Turcs. Mais les historiens me pardonneront si je me suis trompé. Voilà, j'ai été très bavard, donc on va écouter un extrait musical avant de parler du film duquel l'extrait est pris. Ça s'appelle « L'année de tous les dangers », « The Year of Living Dangerously in English », un film tourné en 1982 où Peter Weir retrouvait à nouveau Mel Gibson avec à ses côtés Sigourney Weaver qui avait déjà tourné Alien, oui, en 1982. Et on va écouter donc un large extrait de cette musique qui est signée de Maurice Jarre, dont vous allez rapidement découvrir qu'il a été longtemps le compositeur attitré de Peter Weir. Voilà, L'année de tous les dangers dans 24 notes secondes. Thank you. Voilà, un extrait un peu tronqué, les puristes m'en excuseront, de la bande originale de L'année de tous les dangers, un film de Peter Weir tourné en 1983. Une musique de Maurice Jarre, alors pour ceux qui sont des fidèles de 24 notes secondes, pardonnez-moi, c'était relativement reconnaissable parce que Maurice Jarre, qui fut le compositeur multi-oscarisé, notamment des films de David Lean comme le Docteur Jivago ou d'autres cinéastes comme Le Pont de la Rivière Kwai, ah ben non, c'était de David Lean aussi, ou de Laurence d'Arabie bien sûr, eh bien Maurice Jarre, le papa de Jean-Michel Jarre, pour ceux qui ne le sauraient pas, a toujours un peu composé, en tout cas à mon humble et personnel avis, la même musique ou à peu près. Mais simplement, et on va écouter d'autres partitions, dans les années 80, l'homme avait découvert les sonorités électroniques et du coup a pu diversifier sa palette. C'était déjà le cas dans ce film. Vous avez peut-être reconnu des accents ethniques puisqu'en fait, l'année de tous les dangers était consacrée à un mystérieux épisode de l'histoire de l'Indonésie, un coup d'État avorté contre le président de l'époque, Sukarno. Dans ce film, on retrouvait Mel Gibson qui jouait le rôle d'une espèce de journaliste un peu véreux et qui avait pour assistant un jeune homme indonésien qui, c'est pourquoi je bafouille une deuxième fois, qui avait pour particularité d'être joué par une femme, mais c'était un homme. Et d'ailleurs, elle obtint, vous voyez, je n'y arrive pas, Linda Hunt, c'est de elle qu'il s'agit, elle obtint l'Oscar du meilleur second rôle pour ce film et pour ce rôle d'homme. Vous avez suivi ? C'est pas grave, à côté, il y avait Sigourney Weaver. Alors elle, avec ses 2 mètres, on ne risque pas de la prendre pour un garçon, ça c'est sûr. Et en tout cas, le film, eh bien, il était, dans mon souvenir, je ne l'ai vu qu'une fois, absolument magique. Peter Weir avait réussi parfaitement à reconstituer, bien que pour des raisons aisément compréhensibles, il n'ait pas tourné en Indonésie, mais quelque part dans les Philippines, il avait réussi à reconstituer cette atmosphère poisseuse, un peu inquiétante, propre aux moments d'incertitude qui, dans certains pays, eh bien, peuvent faire basculer d'un jour à l'autre la situation. Et ce n'est évidemment pas propre à 1983. On va enchaîner avec un autre film dans lequel Peter Weir faisait montre des mêmes merveilles et de la même pertinence, qui lui rencontra aussi, comme L'année de tous les dangers, un grand succès. Ça s'appelle Witness. Peut-être que rien que le titre déjà vous évoquera bien des choses. Un film dans les rôles principaux duquel on retrouvait Harrison Ford, qu'il n'est pas besoin de présenter, et Kelly McGillis, la pauvre, elle n'a pas fait une longue carrière. On l'a vu aux côtés de Tom Cruise, bien évidemment, dans ça y est, j'ai oublié, mais ça va me revenir. De Top Gun, voilà, merci à la régie qui supplée à mes petites bouffées d'Alzheimer. De Top Gun, bien sûr, je vous le fais. Non, je ne vous le fais pas, je ne vous le fais pas. Donc Kelly McGillis qui jouait le rôle d'une Amish, puisque tout le charme du film, eh bien, c'était l'incursion d'Harrison Ford dans la communauté Amish, une communauté issue d'une secte anabaptiste allemande fondée au XVIe siècle, ça c'est ma petite fiche, c'est pas Alzheimer, et qui continue aujourd'hui à refuser certains avantages du monde moderne comme Instagram, Facebook, Twitter, je ne sais pas comment ils font pour se passer de toutes ces choses. Et évidemment, le film était en partie basé sur ce choc culturel entre Harrison Ford venant du monde soi-disant moderne et Kelly McGillis et ses joyeux compagnons, eh bien, continuant à monter des charpentes en bois sans l'aide d'un logiciel 3D. Mais comment font-ils ? Allez, on écoute un extrait de la bande originale. Elle est à nouveau signée de Maurice Jarre et vous allez écouter la différence. Witness, en français, on ne sait pas pourquoi, témoin sous surveillance dans 24 notes secondes.
Thank you.
Alors, vous avez reconnu la différence, la musique toute électronique de Maurice Jarre pour un extrait de la bande originale de Witness, un film de Peter Weir, notre héros de ce jour, tourné en 1985 avec Harrison Ford dans le rôle principal. Comme les morceaux sont longs et que je préfère vous laisser profiter de la musique que de ma douce voix, eh bien, je vais juste enchaîner assez rapidement après ce grand succès public. Peter Weir et Harrison Ford d'ailleurs qu'il retrouva essuyer un grand échec public avec leur film suivant qui s'appelait Mosquito Coast et qui était inspiré d'un roman de Paul Theroux qui ne rencontra pas un grand succès mais comme tous les grands réalisateurs Peter Weir sut se remettre en selle puisqu'en 1989 il tourna ce qui est peut-être avec un autre film que j'évoquerai tout à l'heure, son plus grand succès, le film que tous les professeurs ont vu et nous bassinent avec ça. Ça s'appelait Le Cercle des Poètes Disparus, bien sûr. Bon, au moins, ça permet aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir Walt Whitman, ce qui n'est pas mal venu. Un film où on voyait Robin Williams dans le rôle de John Keating, professeur de lettres charismatique, emporté complètement dans ses délires lyriques et oniriques, une bande d'élèves tous plus captivés les uns que les autres avant que, bien évidemment, la réalité les reprenne, mais en même temps, ils gardent leur fraîcheur d'enfant. Tout cela était très américain, ma foi. Vous avez compris, j'ai peut-être été un peu échaudé par le côté un brin démagogique de l'affaire, mais apparemment j'ai été le seul, puisque le Cercle des Poètes Disparus, Dead Poets Society in English, a rencontré un très très grand succès, que la musique en était signée de Maurice Jarre. Alors il y avait aussi ses potes, Richard Wagner, Handel, Tchaïkovski, Beethoven, Van de son prénom, mais on va écouter un extrait de la bande originale proprement dite. Maurice Jarre, le Cercle des Poètes Disparus, dans 24 notes secondes. Thank you. Voilà, le lyrisme, à mon avis, un peu emprunté de Maurice Jarre avec des cornemuses dont je ne saurais vous dire si elles sont vraies ou synthétiques pour un extrait de la bande originale du Cercle des Poètes Disparus, certainement l'un des films les plus fameux de Peter Weir, un film sorti en 1989 avec le regretté Robin Williams dans le rôle principal et qui, de fait, avait au moins le mérite d'encourager toute cette jeunesse à lire les grands poètes. Et ma foi, mais ce n'était pas si malvenu. Ensuite, eh bien, comme le temps passe, on ne va pas pouvoir évoquer musicalement tous les films tournés par Peter Weir, qui, cela dit, n'en a pas tourné plus d'une douzaine dans sa longue carrière. C'est un réalisateur assez rare. On passera assez rapidement sous silence le film tourné en 1990, Green Card, où on voyait Gérard Depardieu tenter de choper, s'il n'y a pas d'autre mot, Andy McDowell pour devenir américain. Honte à toi, Gégé. Tu en as fait des saloperies dans ta vie. Mais comme celle-là, ma foi, je ne sais pas. Ensuite, eh bien, Peter Weir signa, alors pour moi, c'est son meilleur film. Personne ne l'a vu, il n'a eu aucun succès. Ça s'appelle en français « État second », on sait trop pourquoi. En anglais, ça s'appelle « Fearless », « Sans peur ». C'est l'histoire d'un gars qui est dans un avion. L'avion s'écrase et il y a deux survivants, lui et une fille. Et ensuite, les deux ont un rapport assez particulier puisqu'ils sont morts et ils ont René, je ne sais pas comment on dit. Jeff Bridges est dans le rôle principal. Vous voyez, j'en bafouille. Un très, très, très grand film. Je vous le conseille. État second, Fearless. Et on va conclure musicalement et autres avec deux chefs-d'œuvre de Peter Weir. D'abord, The Truman Show, tourné en 1998 avec Jim Carrey dans le rôle principal qui est d'une télé-réalité, mais qui ne le sait pas. Bon, je fais un peu de spoiling, mais comme on le sait très rapidement au début du film, un film absolument magistral qui a rencontré un très, très grand succès, tout à fait mérité, avec un scénario, puisqu'il faut quand même le citer, le film lui doit beaucoup, signé d'Andrew Niccol, l'homme de Bienvenue à Gattaca, s'il vous plaît. Et on va se quitter musicalement avec le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, en tout cas un film absolument époustouflant, Master and Commander, qui s'appelait en français De l'autre côté du monde, et dans lequel on voit Russell Crowe dans la marine de sa majesté, un film avec des batailles navales, un film avec une sorte de personnage qui rappelle un peu Darwin et qui visite les îles Galapagos, là où Darwin a élaboré, ça a été le fruit d'une longue réflexion, mais c'est quand même là que la chose l'a frappé, a élaboré la théorie de l'évolution que d'aucuns continuent à combattre. Et vraiment, il n'y a rien d'autre à dire sur Master and Commander que c'est un chef-d'œuvre. Et par contre, il vaut mieux le voir au cinéma, si c'est encore possible, parce que la magnifique réalisation de Peter Weir ne vaut que par ce biais-là. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Vous avez trois films à voir absolument. Fearless, The Truman Show, si vous n'avez pas déjà vu, ce dont je doute. Et puis Master and Commander, sur la musique duquel on se quitte dans 24 notes secondes. Musique de Christopher Gordon, j'ai oublié de le dire. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.